Pour tout individu, la compétition potentiellement la plus dangereuse provient souvent de sa propre espèce. L'espèce consomme des denrées indispensables. Sa croissance est limitée par la denrée vitale qui est disponible dans la quantité la plus faible. La condition la moins favorable détermine le taux de croissance. Loi du minimum. Extrait des leçons d'Arrakis. L'immeuble se dressait en retrait d'une large avenue, derrière un écran d'arbres et de haies fleuries soigneusement entretenues. Les haies avaient été espacées de manière à former un labyrinthe jalonné de piliers blancs à hauteur d'homme qui délimitaient les surfaces plantées. Aucun véhicule ne pouvait entrer ni sortir autrement qu'au pas. En bon militaire, Teg notait automatiquement ces détails, tandis que la voiture blindée s'arrêtait devant le portail. Le maréchal Mustafar, le seul autre occupant à l'arrière du véhicule, perçut son intérêt et expliqua.
« Nous sommes protégés des airs par un dispositif d'enfilade à faisceaux. »
Un soldat en uniforme de camouflage, portant un long laser à la bretelle, leur ouvrit la portière et rectifia la position tandis que Mustafar descendait. Teg le suivit. Il reconnaissait maintenant cet endroit. C'était l'une des adresses sûres que les services de sécurité du Bene Gesserit lui avaient communiquées. De toute évidence, les fichiers des sœurs avaient besoin d'être remis à jour. Pas de beaucoup, cependant, car Mustafar ne semblait pas se douter que Teg pût déjà connaître les lieux. Tandis qu'il s'avançait vers le portail, Teg remarqua qu'un autre dispositif de défense qu'il avait inspecté lors de sa première tournée à Issaï était demeuré inchangé. Il y avait des différences à peine perceptibles dans certains piliers blancs aux angles du labyrinthe. Ces piliers dissimulaient en réalité des scanoliseurs télécommandés à partir d'une salle de surveillance située quelque part à l'intérieur de l'immeuble. Leurs chapeaux en forme de losange balayaient toute la zone située entre l'immeuble et eux. Une légère pression sur un bouton dans la salle de surveillance suffisait à faire de la viande hachée à partir de tout organisme vivant qui traversait leur champ. Au portail, Mustafar s'arrêta et se tourna vers Teg.
L'honoré matriarche que vous allez rencontrer est la plus puissante de toutes celles qui viennent ici. Elle ne tolère rien d'autre que l'obéissance la plus totale.
Si j'ai bien compris, c'est une mise en garde.
Je veux seulement vous rendre service. Appelez-la honoré matriarche et rien d'autre. Nous allons entrer. J'ai pris la liberté de vous faire faire un nouvel uniforme.
La pièce où Mustafar le fit pénétrer était l'une de celles que Teg n'avait pas visitées lors de son précédent passage. Petite et encombrée de caisses à panneaux de toile noire, elle laissait peu de place pour s'y tenir à deux. Un unique brilleur fixé au plafond l'éclairait d'une lumière jaune. Mustafar se glissa dans un coin, tandis que Teg ôtait la combinaison sale et froissée qu'il portait depuis le non-globe.
« Désolé de ne pouvoir vous offrir également un bain, » lui dit Mustafar, « mais nous n'avons pas le temps. » Elle commence à s'impatienter.
Teg se sentit revivre en endossant cet uniforme. C'était le vêtement noir dont il avait l'habitude, avec tous les détails, y compris les étoiles d'or au collet. Ainsi, on voulait qu'il se présente devant cet honoré matriarche en qualité de bachar du Bene Gesserit. Intéressant. Il redevenait bachar à part entière. Non qu'il eût jamais perdu le sens de cette identité puissante, mais l'uniforme la renforçait et la proclamait à la vue de tous. Avec lui, il n'avait plus besoin d'affirmer sa personnalité d'une quelconque autre manière.
« Vous êtes bien mieux ainsi, » lui dit Mustafar.
Il précéda Teg dans le couloir et ouvrit une autre porte dont Teg se souvenait. Oui, c'était là qu'il avait rencontré les contacts sûrs qu'on lui avait indiqués. Il n'avait pas eu de mal à identifier la fonction de cette salle la première fois, et rien ne paraissait avoir changé depuis. Des rangées de capteurs microscopiques occupaient les intersections des murs et du plafond, camouflés en rampes argentées retenant les brilleurs flottants. « Celui qui est observé ne voit pas, » se dit Teg, « et les observateurs ont des yeux par millions. » Sa vision seconde lui indiquait qu'il y avait ici un danger, mais rien d'immédiatement violent. La salle, qui faisait environ 4 mètres sur 5, était un lieu de transaction à un niveau élevé. L'argent n'y passait pas nécessairement de main en main. On y voyait par contre de petits objets de valeur représentant tout ce qu'il pouvait y avoir comme monnaie d'échange. Des bourses de mélange, des gémones laiteuses de la taille d'un globe oculaire, parfaitement sphériques, de consistance à la fois lisse et molle, mais rayonnantes d'un éclat lisse dès qu'elles recevaient la moindre quantité de lumière ou que quelque chose de vivant les touchait. C'était le genre d'endroit où le spectacle d'un daniquin de mélange ou d'un sachet de gémones était considéré comme tout à fait banal. L'équivalent d'une planète pouvait changer de main sur une simple inclination de tête, un clin d'œil ou un mot à voix basse. Nul besoin ici d'exhiber des sacoches bourrées de billets. La chose qui s'en rapprochait le plus était peut-être un mince carré de translux à l'intérieur garni de poison, d'où sortaient des feuilles encore plus minces de cristal rédulien sur lequel étaient gravés en caractère infalsifiable des nombres astronomiques.
« C'est une banque !» déclara Teg. « Comment ?»
fit distraitement Mustapha, dont le regard était fixé sur une porte close à l'autre bout de la salle.
« Ah oui, elle ne va pas tarder à arriver. »«
Elle nous observe en ce moment, j'imagine. »
Mustapha ne répondit pas, mais son visage s'assombrit. Teg regardait autour de lui. Qu'est-ce qui avait changé depuis sa dernière visite? Il ne voyait aucune différence notable. Il se demandait si des sanctuaires tels que celui-ci connaissaient beaucoup de changements d'un siècle à l'autre. Il y avait au sol un tapis de rosée, aussi moelleux que du duvet de Brantal, et aussi blanc que le ventre d'une baleine à fourrure. Il miroitait d'un faux éclat mouillé que l'œil était tout seul à percevoir. Celui qui l'aurait foulé nu-pied, mais la chose ne s'était sans doute jamais produite, n'aurait senti rien d'autre qu'une caresse sèche et soyeuse. Au centre de la salle, il y avait une table étroite de 2 mètres de long environ. Son plateau faisait plus de 3 centimètres d'épaisseur. Teg était sûr qu'il était en jacaranda massif d'origine danienne. Sa surface d'un brun violacé avait été si bien polie que son lustre absorbait la vision en profondeur, révélant le tracé délicat des veines semblables au courant sous-jacent d'une claire rivière. Il n'y avait que 4 chaises d'amiral autour de la table, façonnées par un maître artisan dans le même bois, aux dossiers et aux sièges garnis de cuiraline assortis au ton du bois. Pas plus de 4 chaises. Il eût été déplacé d'en mettre davantage. Teg ne s'y était pas assis lors de sa première visite, et il ne le fit pas cette fois-ci non plus. Mais il savait exactement ce qu'il aurait ressenti. Un confort presque du niveau des vulgaires canisièges. Presque, mais pas tout à fait, bien sûr. Des sièges trop moelleux, capables de s'adapter étroitement à la forme du corps, risquaient d'inciter leur occupant à une relaxation dangereuse. Tout dans cette salle et son mobilier disait « Prenez vos aises, mais sachez demeurer vigilant. » Non seulement il fallait garder sa lucidité quand on était ici, mais il convenait également d'avoir derrière soi une grande capacité de violence. Telle avait été l'estimation de Teg la première fois, et son opinion n'avait pas changé aujourd'hui. Il n'y avait pas de fenêtre ici, mais celle qu'il avait vue de l'extérieur miroitait derrière des barres de lumière, des écrans d'énergie qui avaient pour fonction d'empêcher toute intrusion de l'extérieur et toute évasion de l'intérieur. Ces défenses n'avaient pas que des avantages, Teg le savait. Mais c'était surtout leurs implications qui étaient intéressantes. La dépense d'énergie nécessaire pour les garder jour et nuit sous tension équivalait au budget alimentaire d'une grande ville pendant toute la durée de vie de ses habitants les plus vieux. Cet étalage de richesse n'avait rien de fortuit. La porte que Mustapha regardait s'ouvrit avec un léger déclic. Danger. Une femme en robe mordorée où dansaient des lignes de feu s'engouffra dans la pièce. Elle est très vieille. Teg ne s'attendait pas à voir quelqu'un d'aussi âgé. Son visage était un masque parcheminé. Ses yeux de glace livide étaient profondément enfoncés dans leurs orbites au-dessus d'un nez long et crochu, dont l'ombre recouvrait ses lèvres fines et soulignait la forme anguleuse de son menton. Une calotte noire coiffait une partie de sa chevelure grise. Mustapha s'inclina.
« Laissez-nous, » lui dit-elle.
Il sortit sans un mot par la porte qui avait livré passage à la vieille femme. Quand la porte se fut refermée derrière Mustapha, Teg murmura
« Honoré matriarche. »
Ainsi, vous avez compris qu'il s'agissait d'une banque,
fit-elle d'une voix où l'on décelait à peine un léger tremblement.
Naturellement.
Les moyens de transférer de vastes quantités d'énergie de personne à personne font rarement défaut. Et je ne parle pas de l'énergie qui fait tourner les machines,
mais de celle qui anime les gens.
Et qui porte généralement le nom étrange de civilisation, société ou gouvernement.
Je savais que je trouverais en vous quelqu'un de très intelligent.
Elle tira une chaise en arrière et s'assit, sans faire le moindre geste pour inviter Teg à en faire autant.
« J'aime bien me considérer comme un banquier, » reprit-elle. « Cela épargne pas mal de circonlocutions oiseuses et affligeantes. »
Teg ne répondit pas, il n'en voyait pas la nécessité. Il continua de l'observer sans bouger.
« Pourquoi me regardez-vous ainsi ? » demanda-t-elle.
« Je ne m'attendais pas à vous voir si vieille.
»« Hé, nous vous réservons bien d'autres surprises, Bachar. Plus tard, une honorée matriarche plus jeune que moi vous marquera peut-être en vous murmurant son nom. Rendez grâce à Dour si cela se produit. »
Il inclina la tête sans comprendre beaucoup de ce qu'elle disait.
« Cet immeuble est également très vieux, » reprit-elle. « Je vous ai observé lorsque vous êtes arrivé. Cela vous surprend-il aussi ?»«
Non. »
L'édifice est demeuré pratiquement inchangé depuis des millénaires. Il est constitué de matériaux qui, pour la plupart, n'offrent guère de prise au temps.
Teg baissa les yeux vers la table.
« Oh, je ne parlais pas du bois, » reprit-elle. « Mais ne vous y fiez pas. En dessous, il y a de la polastine, du polas et du port-maba. Les popopos ne sont pas à dédaigner quand les nécessités les imposent. »
Teg ne répondit pas.
« Les nécessités, » continua la vieille femme. « Avez-vous une objection à formuler contre les méthodes que les nécessités nous ont imposées d'utiliser contre vous ?»«
Mes objections n'ont aucune importance. »
Il se demandait où elle voulait en venir, mais la réponse était évidente. Elle l'étudiait, bien sûr, tout comme il l'étudiait.
Pensez-vous que d'autres aient parfois élevé des objections contre ce que vous avez pu leur faire?
Sans l'ombre d'un doute.
Vous êtes un commandant né, Bachar. Je pense que vous allez nous être précieux.
J'ai toujours pensé que j'étais surtout précieux à moi-même.
Bachar, regardez mes yeux.
Il obéit et vit de petits points oranges flotter dans le blanc autour des iris. La sensation de danger était soudain aiguë.
« Si jamais vous les voyez devenir entièrement oranges,
prenez garde, » poursuivit-elle.
« C'est que vous m'aurez offensé au-delà de ce que je puis tolérer. »
Il inclina la tête.
« J'apprécie votre aptitude à commander, » reprit-elle, « mais ne croyez pas que vous puissiez l'exercer sur moi. Vous commandez à la racaille, et c'est la seule fonction que nous ayons à proposer à ceux de votre sorte. »
La racaille ?
Elle fit un geste blasé de la main.
Vous savez bien, ceux qui sont là dehors, leur curiosité est étriquée. Rien de grand ne pénètre jamais dans leur psychisme.
Je me doutais que c'était ce que vous vouliez dire.
Il est vrai que nous veillons à ce que les choses demeurent ainsi. Tout leur parvient à travers un filtre étroit, dont le rôle est d'exclure tout ce qui n'a pas une valeur de survie immédiate.
Un psychisme étriqué.
Vous êtes choqué, je le sais, mais ça n'a pas d'importance. Pour ces gens-là, la seule chose qui compte, c'est « Aurai-je de quoi manger aujourd'hui ? Aurai-je un abri pour la nuit, à l'abri des vandales et de la vermine ? Le luxe ? Le luxe, c'est la possession d'une drogue ou d'une personne du sexe opposé qui puisse pour un instant tenir la bête aux abois. »
« Et la bête, c'est toi, » pensa Teg.
« Si je prends mon temps avec vous, Bachar, » poursuivit-elle, « c'est parce que je vois que vous pourriez nous être encore plus utiles que Mustafar. Et il nous est extrêmement précieux, sachez-le. En ce moment même, nous le récompensons de vous avoir conduit à nous dans un état de réceptivité parfaite. »
Comme Teg gardait le silence, elle gloussa.
Vous n'estimez pas être en état de réceptivité ?
Teg ne disait toujours rien. Avait-on glissé une drogue quelconque dans le repas qu'on lui avait servi ? Il percevait le clignotement de sa vision seconde, mais la menace s'était estompée en même temps que les points oranges dans les yeux de l'honoré matriarche. Cependant, il fallait faire attention à ses pieds. C'étaient des armes mortellement dangereuses.
« Il se trouve simplement que votre attitude envers la racaille n'est pas la bonne, » ajouta-t-elle. « Par bonheur, ils agissent de telle sorte qu'ils se limitent eux-mêmes. Ils le savent dans le tréfonds de leur esprit conscient, mais ils n'y peuvent rien. Ils n'ont pas le temps de s'attaquer à un autre problème que celui de leur misérable survie immédiate.
Leur sort ne peut pas être amélioré?
Il ne doit pas être amélioré. Bien sûr, nous veillons à ce que le désir de s'améliorer demeure vigoureux chez eux, mais cela reste une aspiration chimérique.
Encore un luxe dont ils doivent se passer.
Ce n'est pas un luxe. C'est quelque chose qui n'est pas du tout à leur portée. Quelque chose qui doit rester caché en permanence derrière le mur de ce que nous aimons appeler l'ignorance protectrice.
Ce qu'on ignore ne peut pas faire de mal.
Je n'aime pas beaucoup ce ton, Bachar.
De nouveau, les taches oranges dansèrent dans ses yeux, mais le signal de danger s'affaiblit rapidement et elle gloussa.
Ce dont on se méfie, c'est le contraire de ce qu'on ignore. Nous enseignons que toute connaissance nouvelle peut être dangereuse. Vous devinez la conclusion. Toute extension de la connaissance est contraire à la survie.
À ce moment, la porte s'ouvrit derrière l'honoré matriarche et Muzaffar reparut. Il était transformé, son visage rayonnait, ses yeux brillaient. Il s'immobilisa derrière la chaise de la vieille femme.
Un jour, je vous permettrai de rester dans mon dos de cette manière, fit celle-ci en s'adressant toujours à Teg. Vous voyez que j'en ai le pouvoir.
Qu'avait-on fait à Muzaffar? Il donnait presque l'impression d'être sous l'effet d'une drogue.
Reconnaissez-vous ce pouvoir? Insista l'honoré matriarche.
Je ne peux pas le nier,
fit Teg après s'être éclairci la voix. N'oubliez pas que je me considère comme un banquier. Nous venons de créditer notre loyal Muzaffar. Êtes-vous reconnaissant, Muzaffar?
Je le suis, honoré matriarche,
fit-il d'une voix rauque. Je suis persuadé que vous êtes à même de comprendre la signification générale d'un tel pouvoir, Bachar,
reprit-elle.
Le Bene Gesserit vous a correctement formé. Les sœurs ont du talent, mais pas autant que nous, semble-t-il.
On dit que vous êtes très nombreuses.
Le nombre n'est pas la clé, Bachar. Le genre de pouvoir que nous utilisons peut très bien être concentré dans un petit nombre de mains.
Elle ressemblait aux révérendes mères, se dit Teg, par sa manière de répondre sans jamais rien révéler d'essentiel.
En gros, reprit l'honoré matriarche, le pouvoir que nous exerçons revient à remplacer la substance même de la survie pour un grand nombre de gens. Ensuite, pour régner, il suffit de brandir la menace du manque.
Elle fit mine de regarder par-dessus son épaule.
Aimeriez-vous que nous vous retirions de faveur, Muzaffar?
Non, honoré matriarche.
Il tremblait réellement.
Vous avez découvert une nouvelle drogue, dit Teg.
Elle éclata d'un rire sonore, un peu rauque, de bon cœur. Pas tout à fait, Bachar. Elle est très ancienne, au contraire.
Et vous voudriez faire de moi un adepte?
Comme tous ceux que nous soumettons, Bachar, vous avez le choix. L'obéissance ou la mort.
Un très vieux choix, reconnut Teg.
Il ne saisissait pas encore la nature de la menace immédiate. Sa vision seconde ne percevait aucune violence.
Bien au contraire.
Elle lui laissait entrevoir des fragments de sensualité confuse.
Croyait-elle pouvoir l'imprégner?
Elle lui sourit d'un air lourd de sous-entendu aux connotations glacées. Nous servira-t-il bien, Muzaffar?
J'en suis persuadé, honoré matriarche.
Teg fronça les sourcils. Ces deux-là portaient le mal au plus profond d'eux. Ils allaient à l'encontre de tous les principes moraux qui lui inspiraient sa conduite. Il était rassurant de se souvenir qu'aucun des deux ne soupçonnait l'étrange métamorphose qui avait accéléré ses réflexes. Il semblait se réjouir de sa perplexité présente. Teg avait également l'avantage de se rendre compte que ceux qu'il avait devant lui n'aimaient pas réellement la vie. Il le voyait clairement grâce à l'éducation que lui avait donnée le Bene Gesserit. L'honoré matriarche et Muzaffar avaient oublié, ou plus probablement, abandonné tout ce qui donnait une raison de survivre à des humains capables d'éprouver de la joie. Ils se disaient qu'ils n'auraient probablement pas pu trouver la moindre source de joie dans leur propre chair. Leur existence devait être principalement celle d'un voyeur, celle d'un observateur éternel toujours en train d'essayer de se rappeler comment étaient les choses avant que ne s'opère la transformation qui les avait amenés à ce qu'ils étaient en ce moment. Même quand ils se vautraient dans l'accomplissement de quelque chose qui était autrefois synonyme de plaisir, il devait leur falloir repousser à chaque fois les limites extrêmes de leurs expériences, simplement pour arriver à toucher le bord de leurs anciens souvenirs. Le sourire de l'honoré matriarche s'élargit en un rictus qui laissa voir ses dents d'un blanc étincelant. « Regardez-le, Muzaffar, » dit-elle.
Il n'a pas la moindre idée de ce que nous sommes capables de faire. »
Teg entendit ces mots, mais il perçut aussi autre chose avec ses yeux formés à l'école du Bene Gesserit. Ces deux-là n'avaient pas en eux le moindre milligramme de naïveté. Rien ne pouvait plus les étonner, rien n'était censé être vraiment nouveau pour eux. Et cependant, ils intriguaient, ils tramaient, en espérant que cette fois-ci encore ils arriveraient à se dépasser pour produire les sensations fortes dont ils avaient gardé le souvenir. Mais ils savaient que leur espoir était vain naturellement, et qu'ils ne retireraient de cette expérience qu'un surcroît de rage tout juste bon à nourrir une tentative de plus pour rejoindre l'inaccessible. C'était ainsi qu'ils fonctionnaient. Teg se composa un sourire à leur intention en mettant à profit tout ce que le Bene Gesserit lui avait enseigné. C'était un sourire plein de compassion, de compréhension et de réelle jouissance devant sa propre existence. Il savait qu'il tenait là l'insulte la plus mortelle qui pût leur être jetée à la face, et il la vit atteindre parfaitement son but. Mustapha lui lança un regard noir. L'honoré matriarche passa de la fureur orange à la surprise abrupte, puis plus lentement, à une délectation naissante. C'était une chose qu'elle n'avait pas prévue. Une chose entièrement nouvelle. « Mustapha, dit-elle tandis que les points oranges s'estompaient dans ses yeux, « allez chercher l'honoré matriarche qui a été choisi pour marquer notre bachar. » Teg, dont la vision seconde criait au péril imminent, comprit enfin. Il vit son propre devenir se déployer autour de lui en ondes concentriques, tandis que le pouvoir montait en lui. La métamorphose opérait toujours. Il sentait ses énergies décuplées. En même temps se faisaient de nouveaux choix et une nouvelle compréhension. Il se vit sous la forme d'un typhon dévastant tout l'immeuble, semant la mort sur son passage. Les cadavres de Mustapha et de l'honoré matriarche gisant parmi d'autres, transformant ces lieux en abattoirs avant de les abandonner derrière lui. « Faut-il vraiment que je fasse cela ?» se demanda-t-il. Pour chaque mort qu'il causerait, d'autres morts seraient exigées. Il en voyait cependant la nécessité, comme il voyait enfin les desseins du tyran. Et la souffrance qu'il percevait pour lui-même le faisait presque crier de chagrin, mais il se contenait.
« C'est cela. Amenez-moi cet honoré matriarche, » dit-il.
Il savait que cela ferait toujours une personne de moins à débusquer dans cet immeuble et à détruire de ses mains. D'abord, il lui fallait prendre d'assaut la salle de surveillance des scanolyseurs.